La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Supformadia et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.
Bonjour, je m'appelle Séléna Rosset et je suis en première gestion administration.
Bonjour, je m'appelle Yoann Guilherme, je suis en première générale au lycée Nelson Mandela à Pibrac, pas si loin. Donc pour commencer directement, on aimerait vous demander de vous présenter rapidement et de nous indiquer quelle est votre pratique de l'information à la radio.
Je suis le rédacteur en chef de France Bleu Occitanie, donc l'antenne locale de Radio France à Toulouse. Je suis en poste depuis 3 ans après avoir occupé ce même poste dans d'autres villes de France, parce que c'est l'avantage de notre maison, c'est qu'on a l'occasion de bouger et de pratiquer de la radio un peu partout. Donc ma pratique de l'info, c'est celle de toute la maison Radio France, donc un journaliste formé dans une locale de France Bleu qui maintenant transmet ça à l'échelle de Toulouse. On a, nous, à France Bleu, des façons de faire l'info qui sont à peu près les mêmes dans toutes les locales du réseau, avec en moyenne entre 7 et 10 journalistes dans chacune des locales et des rendez-vous d'info toutes les heures, tous les quarts d'heure en matinale, mais comme beaucoup de nos collègues. Et la vraie nouveauté qu'on a depuis 2 ans maintenant, c'est que notre matinale est aussi filmée sur France 3. C'est une petite révolution pour nous, mais que beaucoup d'autres médias et d'autres radios ont fait. On a un créneau de 7h à 9h qui est retransmis aussi sur France 3. Donc là, on a dû sortir un peu de nos habitudes radio pour faire de la télé. Donc voilà quelle est la pratique de l'info en radio telle que je la connais aujourd'hui.
Bonjour à tous. Je suis Sylvain Attiel, je suis le directeur du pôle broadcast du groupe Media Meeting. Le pôle broadcast à Media Meeting, c'est d'abord 4 radios FM, dont Toulouse FM, et l'agence de presse A2PRL, qui est une, et c'est pas du tout péjoratif dans ce terme dans ma bouche, qui est une usine à produire de l'info pour aujourd'hui 240 diffuseurs, des radios nationales, des radios locales, des réseaux, des radios outre-mer. Et nous faisons tous les formats de l'info. Il y a une rédaction d'une trentaine de journalistes qui travaillent sur Toulouse. Donc je suis confronté à la réalité de cette production de l'info au quotidien. Et auparavant, j'ai une expérience de 17 ans dans le service public, et puis à RTL, et puis à Sud Radio. Et je n'ai jamais été journaliste, ce qui me donne toute légitimité pour parler d'info.
Je m'appelle Guillaume Charvet, je suis le directeur de Totem. Totem est peu connu sur Toulouse parce qu'on n'aimait pas jusqu'ici. Par contre, on est bien connu dans les territoires ruraux d'Occitanie et de Sud-Auvergne. On est basé en Aveyron et on est sur 12 départements autour de l'Aveyron. L'info et l'actu pour nous, c'est central dans notre programme éditorial, dans le sens où on a 14 journalistes encartés et on fait l'actu à partir de nos reporters de terrain, qui est vraiment le cœur de métier de Totem, sur cette partie-là en tout cas. On a plus de 60 rendez-vous d'actu par jour, entre les flashs et journaux, entre les chroniques, et les différentes interventions. Donc c'est vraiment autour de l'info et de l'actu qu'est articulée notre ligne éditoriale, avec bien sûr aussi de la musique et des animateurs, puisqu'on est une proxy généraliste, on est d'abord une radio dite musicale, mais avec un fort contenu, et ces contenus sont produits via l'info et via l'actu. Donc c'est vraiment le pivot de la proximité que crée Totem avec nos auditeurs sur les 130 000 auditeurs jour qui nous écoutent. Et c'est bien ça que nos auditeurs viennent chercher sur l'antenne de Totem, c'est cette proximité dans l'actu avec nos reporters sur le terrain.
Une question qui doit vous revenir souvent, je pense. Avec l'engouement des réseaux sociaux, est-ce qu'on cherche toujours à s'informer par la radio ?
Le radio est d'abord un média d'habitude. Et quand on crée de la fidélité autour des rendez-vous et notamment autour de l'info, il y a cette notion très forte aujourd'hui, et les études qui sont produites en ce moment le montrent, c'est la crédibilité du média radio, qui est le média qui a la plus forte crédibilité par rapport aux autres médias. Même si les réseaux sociaux sont là, même s'ils apportent une certaine forme d'information, la crédibilité du média radio reste forte dans le cœur des Français, et c'est bien ça qui est toute notre valeur ajoutée par rapport à toutes ces nouvelles formes de communication qui existent. On a cette crédibilité, cette dimension affective de la radio auquel les gens croient, et cette fameuse mode des fake news qu'on peut entendre sur 1000 supports, dont les réseaux sociaux, je ne vais pas dire n'existent pas à la radio, mais en tout cas sont chassés, parce qu'on a à cœur d'avoir cette crédibilité et cette pérennité dans la crédibilité de ce qu'on produit.
Je dirais que tout dépend de ce qu'on appelle la radio. En fait, la radio, c'est pas... Il y a une formule que je sers à chaque fois que possible, mais la radio, c'est pas le tuyau, c'est ce qu'on met dans le tuyau, en fait, au final, et l'info aussi. Les réseaux sociaux, c'est peut-être un complément, c'est une réalité hein, qu'il ne faut surtout pas occulter. Mais aujourd'hui, la radio reste encore un média très important, et en particulier ce média de l'intime, ce média de la mobilité. Les réseaux sociaux, quand vous êtes au volant sur la rocade le matin, c'est pas très pratique non plus. Donc oui, bien sûr, l'info a encore toute sa place à la radio, et je crois que la radio est encore un des vecteurs les plus pratiques en termes purs de consommation au quotidien pour aller chercher l'info, pour la trouver. Et c'est vrai que au-delà de, mais peut-être on reviendra là-dessus dans un moment, mais au-delà de l'outil en lui-même, la radio bénéficie d'une confiance parce qu'elle est faite le plus souvent par des professionnels, parce qu'effectivement les éditeurs de radio sont ou se veulent ou se disent ou doivent être responsables de leur production. Et je crois que, à part quelques cas de personnes relativement inconscientes ou peu éduquées à l'univers des médias, ça tout le monde le garde à l'esprit ou tout le monde le ressent de façon concrète.
J'ajouterais qu'aujourd'hui la frontière entre les médias a tendance à s'effacer. Je vous ai parlé de télé tout à l'heure. Les réseaux sociaux, c'est aussi un outil pour nous, un outil que dans nos trois radios, enfin toi t'en as beaucoup plus, mais dans toutes nos radios on utilise. Et pour rentrer dans le concret du travail de mes journalistes et sans doute de nos journalistes, quand ils ont une info, quand ils vont sur le terrain, ils déclinent cette info à la radio, ils la déclinent sur le web, ils la déclinent parfois en vidéo et ils la déclinent sur les réseaux sociaux. Donc on a souvent ce débat, notamment quand on fait de l'éducation aux médias, sur les fake news, cette concurrence-là. C'est au contraire, nous, un terrain sur lequel on doit être, parce que journaliste, c'est un métier. Savoir recouper une info, c'est un métier. On a la prétention de savoir le faire. Et il faut absolument qu'on se serve de ces outils-là. Et après aussi, il faut qu'on relativise la portée des réseaux sociaux, parce qu'on est beaucoup sur les retweets, beaucoup sur les commentaires. On voit la portée d'une info comme ça. Moi, il n'est pas rare que je vois une info de chez nous ultra commentée sur les réseaux sociaux et qu'en fait, on se rende compte dans la fréquentation sur le site et donc à fortiori dans l'écoute à la radio qu'elle n'a pas forcément passionné. Ça peut avoir un prisme déformant, les réseaux sociaux, dont on a appris à se méfier avec le temps.
Je suis d'accord dans ce que vous dites, Julien, dans le sens où la problématique potentielle des réseaux sociaux, c'est qu'on distingue le fond de la forme. Là où le boulot des équipes journalistes est bien de travailler sur le fond et de trouver un angle qui rende la pertinence du sujet, le côté pervers des réseaux sociaux, c'est de rester que sur la forme et surfer sur l'effet buzz ou l'effet nombre de clics et qui peut pervertir un peu le système. Je suis d'accord que le métier de nos équipes, c'est aussi de les pousser sur les réseaux sociaux de manière pertinente pour occuper l'espace d'autant plus... rendu d'autant plus fort par cette qualité des équipes journalistiques qui ont ce travail d'abord en radio et qui le poussent ensuite sur les réseaux sociaux.
Alors vous nous avez dit que chaque média traitait l'information et qu'elle était déclinée. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la spécificité de la manière de traiter l'information par rapport à d'autres médias, à la radio, et finalement que cherche l'auditeur lorsqu'il s'informe à la radio ?
Vous voulez dire de la radio par rapport à d'autres médias ou
exactement.
Nos lignes éditoriales propres ?
La radio en général et plus précisément si vous voulez vous étendre dessus.
Je ne suis pas persuadé qu'il y ait il y a une vraie différence dans les préoccupations d'un lecteur du Parisien ou d'un auditeur de France Inter. Après, il y a des lignes éditoriales qui sont les nôtres. La ligne éditoriale de mon média, elle est clairement axée sur... comme nous trois, je pense ici, sur la proximité, la réactivité par rapport à des infos pratiques que l'auditeur peut avoir, et après des infos du quotidien. Je parle assez peu souvent des problèmes au Proche-Orient sur mon antenne. Donc ça, c'est défini par une ligne éditoriale qui est propre à chaque radio. Après, il y a des sujets qui peuvent ne pas être radiophoniques, qui vont très très mal se prêter à l'exercice radiophonique, sauf à avoir une plume, une écriture exceptionnelle et la voix qui va avec. J'ai pas l'exemple qui me vienne en tête comme ça, mais il peut y avoir des sujets que vous trouverez dans la presse écrite ou même en télé que vous n'aurez pas facilement en radio. Je pense hier à une de mes journalistes, en l'occurrence une apprentie, qui a voulu faire un papier sur un sujet feu d'artifice à Toulouse. Donc un sujet d'ultra proximité, le fait qu'il y ait 4 feux d'artifice et non plus un à Toulouse à cause du Covid. Elle a essayé de me le décliner en papier, ça donnait quelque chose qui était très compliqué. Lu en presse écrite, je pense que ça peut avoir un autre effet. Mais globalement, les préoccupations de nos auditeurs, lecteurs ou téléspectateurs ou internautes restent à peu près les mêmes et on ne s'interdit rien en radio.
Oui, d'ailleurs pour illustrer ça... moi j'ai par exemple le plaisir et surtout l'honneur de présider l'école de journalisme de Toulouse qui est de l'autre côté du trottoir hein. Et en fait les étudiants journalistes, les élèves journalistes se destinent plus ou moins à tel ou tel média. Certains ont une attirance pour la presse écrite, d'autres pour la télé, d'autres pour la radio, d'autres se cherchent un peu et c'est bien normal. Mais globalement, on s'aperçoit que notre programme, c'est un tronc commun. Les règles sont les mêmes, les méthodes sont les mêmes, les fondamentaux restent les mêmes. Et cette fameuse éthique, hein, ça c'est un bien grand mot, il faudrait des heures pour disserter là-dessus, mais du journaliste, est sur les mêmes, exactement les mêmes fondamentaux. Après, effectivement, il y a une adaptation à l'outil, le langage. On n'a pas parlé du vocabulaire, mais effectivement, il est peut-être... parfois moins littéraire, plus familier naturellement en matière de radio, sinon ça sonnerait parfois de façon un petit peu curieuse. Et puis au-delà de ça, nous qui avons aussi un quotidien qui consiste à servir plusieurs radios et très différentes, tu parlais d'une ligne éditoriale, bah effectivement, dans la mesure où les radios identifient un public... Ah ouais, il y a le gros mot public cible, mais identifie effectivement un public, même si l'info reste fondamentalement la même, on ne la dit pas, on ne la donne pas, voire même la hiérarchie de l'info évolue en fonction du public auquel on s'adresse. On ne s'adresse pas sur une radio ado de la même façon que sur une radio senior ou une radio thématisée sur un thème ou un autre.
En complément, j'apporterai deux éclairages. Le premier, c'est que une des grandes différences avec certains autres médias, en tout cas, c'est l'immédiateté de la radio. Cette capacité, comparée à la presse écrite, je veux dire, d'être dans le direct, dans l'instant de ce qui se passe, dans la pertinence et l'éclairage. Alors, la télé le permet aussi, avec la limite de la télé sur certaines chaînes, si je me permets de taquiner un peu certains de nos confrères, c'est que, par exemple, sur un événement de neige à Paris où certaines chaînes de télé, pendant 2 heures, montrent la neige à Paris avec un envoyé spécial en direct qui mesure, qui en parle, etc. Dans nos territoires où on passe Totem, sur le Nord Aveyron, sur la Lozère ou le Cantal, la neige, c'est tous les hivers. On fait un flash, une infotrafic, on alerte. Éventuellement, on envoie quelqu'un s'il y a un accident, mais on n'en fait pas des heures et des heures de direct pour délayer quelque chose. Donc, il y a cet aspect de l'immédiateté dans la pertinence à la radio qui est une vraie différence avec d'autres médias. Et la deuxième chose, je pense, c'est, on parlait de ligne éditoriale tout à l'heure, je pense qu'à la radio, en tout cas, la dimension politique et du parti pris est beaucoup moins prégnant que dans la presse écrite et dans la télé, qui fait qu'il y a ce caractère objectif de la radio dans l'info donnée, qui permet à l'auditeur de se faire sa propre opinion d'un sujet, là où certains quotidiens sont orientés politiquement, et c'est voilà, le choix éditorial de chacun. À la radio, c'est plus complexe et plus compliqué de l'orienter, dans le sens où il y a cette dimension de crédibilité, parce que un des buts de la radio, c'est vraiment d'accompagner l'auditeur tout au long de sa journée, avec des rendez-vous fixes, qui fait que la crédibilité dont on parlait tout à l'heure, l'immédiateté dans ce qui se passe, et cet angle éditorial sont fondamentales pour avoir la pérennité des rendez-vous avec nos auditeurs.
Comment expliquez-vous le fait que la radio reste quand même le média considéré comme le plus fiable dans les sondages ?
C'est ce qu'on a expliqué à l'instant. Bon, d'abord, pour rebondir sur ce que disait mon collègue de Totem, il y a, Il y a une vague de défiance vis-à-vis des médias. On l'a vu avec l'épisode des Gilets jaunes. Ça a pu être compliqué pour certains médias. On a constaté que finalement, nous, les radios, on était plutôt à l'écart des, on a été à l'écart des incidents. Non pas qu'on n'a pas été solidaire, évidemment, de ce qui s'est passé pour certains collègues, mais on n'est pas VFM, donc c'est pas à nous qu'on pense quand on pense aux journalistes entre guillemets malfaisants qu'on peut imaginer. On est assez à l'écart de ça. On bénéficie de cette crédibilité. Je pense parce qu'il y a un savoir-faire, une forme de neutralité aussi sur laquelle je rebondis. Après, il y a des radios qui sont quand même orientées, mais c'est pas autant assumé, c'est surtout plus varié. Et je reste à peu près persuadé que notre facilité à nous adapter à toutes les situations, que ce soit sur l'info ou sur d'autres choses, à évoluer sur tous les fronts de l'info, des programmes, nous rend assez actuel par rapport à d'autres médias. Je pense que l'auditeur de la radio se rend compte que ce média, il évolue avec son temps et qu'il est assez moderne. Alors, tous les médias évoluent avec leur temps, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire évoluer la radio, quel que soit son statut, de toucher un peu à la télé, de toucher aux réseaux sociaux, d'aller même sur la vidéo, que pour des grands journaux de PQR, des grosses machines qu'il faut faire bouger avec des méthodes qui sont pas forcément les leurs à la base, pour ne parler que des journalistes. Très concrètement, c'est plus facile de faire travailler un journaliste radio sur de la vidéo, du site internet, parce qu'il a cette habitude de mobilité, d'adaptabilité, c'est moins facile dans des grosses machines de PQR.
Sur cette idée de confiance accordée à la radio, alors on ne va pas se priver du plaisir de s'en réjouir et voire même d'en profiter dans notre communication au sens large et dans notre amour propre. Cela dit, j'espère que c'est juste un ressenti, parce que par respect pour nos confrères de la presse écrite ou de la télé ou des autres médias émergents, effectivement, on peut imaginer que tous les journalistes font le même métier avec la même attention. Et probablement, effectivement, ce qui brouille un petit peu les pistes, c'est cette concurrence des chaînes du Tout Info en particulier, cette concurrence historique des 20 heures hein, entre celui de TF1 et celui de France 2 par exemple. Et peut-être qu'on a moins, même si ça existe aussi en réalité, une concurrence, une course à l'audience effrénée entre les grands rendez-vous d'information des radios. C'est vrai que l'attention se reporte plus sur les stars de l'animation, les grandes émissions de, on va dire, variété, divertissement au sens large, que sur l'info, où les rédactions des radios semblent, ce qui n'est pas toujours tout à fait vrai d'ailleurs, ce qui est même rarement vrai, mais semblent un petit peu en retrait de cette bataille à l'audience. Et je crois que ça... Ce ressenti provient aussi de là.
Oui, je suis d'accord. Je crois qu'il n'y a pas eu cette dénaturation qu'il y a pu avoir sur certains médias. Et puis malgré tout, ce qu'on entend depuis ce matin, c'est qu'il y a un rapport affectif à la radio dans le cœur des Français depuis toujours, qui vraiment les accompagne depuis 100 ans. C'est bien la fête aujourd'hui. Et qui jamais l'a trahi, la radio, me semble-t-il, n'a trahi sa promesse, à savoir... apporter de l'info de manière juste, à savoir apporter du divertissement, apporter du plaisir, apporter du réconfort éventuellement. Et à travers ça, voilà, on entendait parler ce matin le président de la commission. Voilà, il écoute la radio sur son réveil, puis sous la douche, puis au petit-déj, puis dans sa voiture. Il y a vraiment ce rapport affectif qui fait que la confiance, elle est gagnée, mais elle est aussi acquise par rapport à la qualité du média. Qui fait que quand les équipes de journalistes, qui certes sont tous formés dans les mêmes écoles, derrière il y a cette ligne éditoriale et puis ce raisonnement, ce comportement par rapport à la radio qui fait que les Français ont cette confiance historique et qu'on doit en prendre la responsabilité et être à la hauteur de cette confiance. Et les radios ont ce vrai souci de conserver cette rigueur dans ce qu'on produit, dans ce qu'on donne, pour être à la hauteur de l'attente de l'auditeur, parce que c'est ce qu'on leur doit. Et régulièrement à Totem, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'attend l'auditeur? Même si pour nous c'est plus facile de faire comme ça, quelle est l'attente de l'auditeur? Remettons l'auditeur au centre de nos préoccupations et conservons cette crédibilité qu'on a aujourd'hui et qu'on espère demain.
je me permets d'ajouter, nous concernant tous, on a la proximité, alors pour ce qui est vraiment des radios locales, et les auditeurs, ils interviennent sur notre antenne, dans les rendez-vous d'info, finalement assez peu chez nous, mais dans tous les rendez-vous. Ils sont chez eux quand ils appellent à la radio et qu'on les passe, ça dure 2 minutes, ça se fait pas en télé, ça se fait pas en presse écrite. Et donc, il y a cette dimension d'appropriation de la radio qui fait le génie de ce média-là, quoi.
Moi, je compléterai avec une petite anecdote. Vous avez raison, c'est que quand on se trompe dans le tiercé ou dans le quarté, le standard de la radio sonne et il nous rappelle à l'ordre. Même on nous a appelé parce qu'on avait dit le tiercé trop vite, j'ai pas compris. Donc, effectivement, cette rapport direct, cette porte ouverte sur les auditeurs qui peuvent nous appeler et avoir donc entre guillemets une incidence sur ce qu'on fait, c'est bien plus fort que voilà, d'autres médias, que ce soit la presse écrite ou la télé. Et donc il y a cette responsabilité en face de ça, de cet accès direct qui participe à cette crédibilité.
Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses à nos questions. Nous allons à présent passer à la question des lycéens.
Alors, bonjour, moi je m'appelle Eric et je suis avec mes collègues au conseil académique de la ville lycéenne. Et la question que j'avais à vous poser, c'est les jeunes, donc de 13 à 34 ans, ont le goût de la radio. Près de 60% de jeunes écoutent la radio pour la musique. Comment attirer les jeunes à s'informer par la radio, que ce soit leur moyen d'information?
C'est une bonne question qui est compliquée à répondre, dans le sens où les jeunes ont des habitudes qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Ils grandissent avec ces fameux smartphones, Internet, donc avec un accès à 1000 informations possibles avec un caractère extrêmement rapide, qui fait que c'est une vraie question. Après, ça dépend aussi du format de la radio, dans le sens où toutes les radios ne sont pas conçues et pensées pour les jeunes. Pour l'exemple de Totem, en tout cas, on a vraiment un format adulte. Donc je ne dis pas qu'on ne va pas chercher les jeunes parce que voilà, ce sont nos auditeurs de demain. Mais effectivement, par rapport à cette rigueur et la qualité de ce qu'on produit, la crédibilité dont vous parliez tout à l'heure, fait que si les jeunes se reconnaissent dans cette fiabilité, ils viendront sur nos fréquences. Et où la régularité des rendez-vous, donc soit tous les quarts d'heure, comme le disait Julien, soit toutes les demi-heures, soit toutes les heures, en fonction du format de la radio ou de la période de la journée, fait que les jeunes savent qu'il y a ce rendez-vous qui est possible, j'ai envie de dire dans le cadre du flux de la radio, mais aussi dans le cadre des podcasts ou des replays sur Internet, qui leur permet d'avoir cette information. Donc, c'est aussi avec ces nouvelles technologies qui nous permettent de toucher les jeunes, notamment dans les territoires où est Totem, où sur l'Aveyron notamment, on a une très forte audience, on a 28% d'audience. Les jeunes qui veulent avoir l'info locale de l'Aveyron savent que sur Totem, ils pourront la trouver. Et si ce n'est pas en direct sur le poste de radio, il y a les replays et les podcasts sur le site internet, il y a l'appli où ils peuvent l'écouter, et donc c'est aussi ces nouvelles technologies, quand on en parlait tout à l'heure, on se doit d'être présent, parce que nos auditeurs de demain, c'est vous les jeunes d'aujourd'hui, et si on ne va pas sur les codes ou les habitudes que vous avez vous, avec ces applis, ce site internet, ces podcasts, on va vous louper dans les auditeurs de demain. Et nos auditeurs, à Totem en tout cas, format adulte, les fameux quadras que vous aurez d'ici 20 ans, si aujourd'hui on ne vous donne pas cette appétence et ces outils-là que vous avez l'habitude d'avoir, dans 20 ans, on vous aura loupé. Et donc, ce sera un échec pour nous. Donc, c'est une vraie question pertinente, parce que comment attirer les nouvelles générations qui ont des nouveaux supports, des nouvelles habitudes sur le média radio qui reste, à la fois fiable, mais malgré tout immuable dans le temps. C'est une vraie bonne question. Donc, ces nouveaux supports sur lesquels on est présent sont une porte d'entrée, je pense, à vous faire venir.
Moi, j'ai deux propositions pour ça. La première, c'est d'abord de penser à élargir cette notion, cette définition de radio, et de l'amener plus globalement sur l'audio. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes générations n'attendent plus, n'acceptent même plus l'idée de la voix de son maître, un émetteur, un récepteur. Mais il y a cette nécessaire fluidité dans le comportement qui fait que j'écoute ce que j'ai envie d'écouter au moment où j'ai envie de l'écouter, et à la limite, je dirais même, sur le support sur lequel j'ai envie de l'écouter. Donc ça, c'est déjà une piste peut-être ne pas rester arc-bouté sur notre définition finalement assez limitée de la radio telle qu'elle est administrativement admise aujourd'hui, mais se dire que le podcast, tous les supports qu'on peut imaginer, c'est le même métier. Le métier, c'est le contenant, encore une fois, pas le contenu. C'est parler aux gens, c'est passer un message, c'est donner une information, c'est décrypter une information, c'est passer tout simplement de l'émotion parfois, sans aller sur cette notion d'information forcément. Ça, c'est la première piste. Et la deuxième piste qui paraît évidente, mais qui est déjà en route, en marche depuis de nombreuses années, c'est la thématisation. C'est-à-dire qu'on sait que la consommation aujourd'hui, mais l'un va avec l'autre, il y a cette fluidité, cette agilité de l'outil dans le temps et dans l'espace, mais il y a aussi cette agilité, j'allais dire, éditoriale de l'outil, où effectivement, aujourd'hui, si je m'intéresse au foot, je ne m'intéresse pas forcément au rugby. Et du coup, je veux écouter quelque chose qui me parle de foot. Et je n'ai pas envie d'attendre pendant 3 minutes qu'on ait fait la liste exhaustive de toutes les rencontres sportives du week-end pour entendre parler du club qui m'intéresse. C'est un exemple. Mais je pense, voilà, ce sont deux pistes. Donc, élargir la notion de radio à la notion d'audio. Et deuxièmement, peut-être réfléchir à la meilleure façon de thématiser nos propositions.
Je rejoins complètement ce que mes collègues disent sur cette nécessité d'aller chercher des futurs auditeurs par les nouveaux supports. C'est vraiment la préoccupation numéro un qui est la nôtre dans toutes les radios aujourd'hui. Parce qu'on dit que la radio finalement se porte bien, on est assez optimiste aujourd'hui, que ce sont les 100 ans de la radio, donc tout va bien. J'insiste quand même sur le fait que l'audience globale du média radio, elle est en baisse. La radio a bonne presse, notamment vis-à-vis des jeunes, mais comme beaucoup de médias, moins que d'autres médias, on perd. Et le défi, c'est d'aller conquérir des nouveaux auditeurs et notamment les jeunes auditeurs que vous êtes. Faut d'abord coller à leurs préoccupations et ça, je pense qu'on n'est pas tous bons là-dessus. On se pose tous les matins cette question, c'est vrai, de savoir comment on colle aux préoccupations des auditeurs. Il faut qu'on imagine notre auditeur sans doute un peu plus jeune. Est-ce qu'il faut lui parler foot ou rugby? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on l'écoute un peu plus pour savoir quelles sont ses préoccupations? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on écoute un peu plus nos enfants? Il y a un vrai défi dans cette ambition de rajeunir la radio. Et la vraie difficulté dans ça, sur le fait d'attirer des auditeurs par le web et de les faire se transformer en auditeurs broadcast, donc auditeur FM, c'est très compliqué. On le constate, nous, à l'échelle de Radio France, où on a vraiment une dualité. On dédoublonne très facilement les internautes de France Inter avec les auditeurs. Ce sont globalement les mêmes. À France Bleu, nous, on constate que ceux qui consultent notre site sont beaucoup des cadras, des quinquas, ne sont pas forcément des auditeurs. Nos auditeurs, eux, sont plus âgés et vont moins sur notre site. Et alors, aller chercher ces nouveaux auditeurs par le web, c'est un vrai défi, et les transformer en auditeurs, c'est pas facile. J'ai pas apporté de solution, pardon, mais on les cherche.
Et pour compléter ce que je voulais dire à l'instant, parmi ces thématiques, il y en a une qui concerne la plupart, je pense, de celles et ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui, et qui est une des plus fortes et des plus intéressantes et des meilleures. C'est la thématique locale, c'est le local.
Merci pour vos réponses. Maintenant, la question des étudiants. Soltan.
Bonjour, Soltan Ouazani, étudiant à l'Université du Capitole. Ma question est la suivante. Pensez-vous que l'information type flash actu, en clair actualité à chaud, a sa place au sein des radios associatives? Je pense aux radios où la majorité des personnes sont bénévoles.
Alors, je crois que de nous trois, il n'y a pas de radio associative, hein, on est d'accord, donc on aura du mal à répondre de manière pertinente, en tout cas. Peut-être que dans la salle, il y aura des réponses, en tout cas, qui seront plus concernantes que celles qu'on peut
mais
faire.
Mais moi, j'ai des choses à dire à ce sujet.
Je dis juste une chose, effectivement, c'est que l'info et l'actu n'appartient à personne, dans le sens où, c'est important de la promouvoir. Une des questions peut-être, et pas que par rapport aux radios associatives, mais certaines autres radios aussi, c'est la manière dont elle est traitée, On parlait tout à l'heure que dans nos équipes, on a des journalistes encartés, avec un savoir-faire, des méthodes, une ligne éditoriale. Je caricature, je sais que certaines radios ne font que la lecture du journal à l'antenne, donc c'est plus un podcast que du travail journalistique. Donc la question peut-être, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot de travail d'un journaliste ou de faire de l'actu de manière plus globale. Et pour la question des radios A plus spécifiquement, je laisserai les personnes concernées répondre peut-être. Sylvain, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est d'abord à la question, à l'évidence, la réponse est oui, pour tout un tas de raisons d'abord évidentes. D'abord, les radios associatives existent dans le but de créer ce lien social et l'information de proximité ou pas fait partie évidemment en priorité de ce lien social. Ensuite, de toute façon, il y a une obligation administrative. C'est pas monsieur le secrétaire général qui nous écoute pas en ce moment, mais qui me contredira. On est bien d'accord, vous connaissez tous les piles, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais vous faire part avec un petit peu d'inquiétude, parfois d'agacement de ce qu'est le quotidien quand on est au contact des radios associatives. Il y avait ce matin un débat que j'ai entendu en partie sur le financement des radios et effectivement leur difficultés des radios associatives dont certaines sont régies par des gens qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, mais qui sont parfois et assez souvent bénévoles, etc., et qui n'ont pas, qu'on le veuille ou non, alors est-ce que c'est une question de choix, est-ce que c'est une question plus générale d'échelle, de capacité financière, etc., mais qui n'ont pas toujours et qui n'ont pas généralement les moyens de faire vraiment de l'information. Et moi, je suis confronté quotidiennement à des présidents d'associations, présidents de radio, qui n'achètent pas de l'info à une agence de presse, qui achètent un prix. Alors, il y a juste une vraie problématique dont je n'ai pas la solution. Voilà. Mais très souvent, ces radios-là voudraient, mais faire de l'info. Alors, où on en fait trop peu, où on n'en fait pas assez. Moi, souvent, je leur dis, écoutez, faites rien plutôt que d'aller acheter de l'info à quelqu'un qui vous fait ça après son job sur un coin de bureau en recopiant les flashs que font les autres et qui vous fait ça pour 80... Enfin, il y a quand même des radios associatives qui vont avoir ces réelles difficultés. Je ne pointe personne du doigt, je n'accuse pas, je fais simplement remarquer que l'information, ça a un prix, l'information, ça coûte cher, et que c'est formidable de demander aux radios associatives de faire de l'info, mais pour elles, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours possible. Parce qu'aussi, un journaliste, ça coûte cher. Un journaliste, ça a un salaire, une convention collective, et il y a toute une série de paramètres qui font que cette réalité est compliquée. Alors, beaucoup le font très bien, beaucoup s'en sortent très bien, trouvent des solutions, et d'autres manquent d'acuité par rapport à ce phénomène. Vous voyez, sous les yeux, je vois le stand de nos amis de Comequipe, qui a amené une spectaculaire baie technique. Et voilà. Quand l'équipe d'une radio associative fait son budget, elle va, si elle achète un outil comme ça, si elle achète une console, investir dans du palpable. Voilà. Et proposer de l'info à une radio, c'est toujours difficile parce que ben voilà, ça se dilue dans l'éther, c'est pas palpable, c'est pas quelque chose. Et très souvent, je pense qu'il y a ce manque de conscience que l'info, ça a un prix, surtout si on veut qu'elle soit bien faite. Et parfois, cette démarche est un petit peu oubliée. Je sais que ce que je dis, ça peut choquer, mais c'est une réalité. Et je ne suis pas en train, encore une fois, d'accuser, de pointer du doigt, etc. Simplement de dire, oui, ce matin, ce qu'il y avait dans le débat, c'est de dire que les radios associatives ont besoin de moyens. C'est aussi pour faire de l'info. Et c'est surtout pour faire de l'info. Encore une fois, c'est le contenant qui nous intéresse.
Alors, moi, je voudrais juste rebondir par rapport à la question d'origine. Je ne crois pas que l'auditeur se pose la question, quand il tourne le bouton, de savoir s'il écoute une radio associative, une radio privée ou une radio du service public. Bien qu'entre privé et service public, ça peut arriver. Mais en tout cas, il ne se dit pas, tiens, ce matin, je vais écouter une radio associative pour écouter une radio associative. Il écoute un contenu, ça lui plaît pas, il reste ou il va voir ailleurs. Je rejoins mon collègue sur la nécessité, évidemment, de faire de l'info sérieuse. Très personnellement, j'ai commencé en radio associative avec une radio qui faisait de l'info avec un journaliste et demi professionnel et autour des pigistes qui apprenaient, dont j'ai fait partie au début. C'est aussi une excellente école de formation. Je sais bien que ce n'est pas le principal. On est là pour parler du contenu, de la qualité de l'info. Mais je pense que c'est bien aussi que les radios associatives en fassent, parce que c'est un bon pied à l'étrier qui nous sort aussi des canons des écoles de journalisme, que je respecte, il n'y a pas de souci. Mais on s'aperçoit souvent que c'est dans la pratique, comme dans beaucoup de métiers, qu'on apprend le mieux le boulot de journaliste. Et ces radios associatives nous amènent parfois aussi des pépites. Et non pas qu'il soit plus noble de faire de l'info sur une autre radio qu'une radio associative. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est bien qu'elles en fassent, en tout cas.
Alors, pour répondre au mieux à la question de Soltan, on a entendu pas mal de réactions dans le public. On va peut-être en prendre deux réactions du côté des radios associatives, peut-être.
Oui, merci. Donc, Siam Mineur, Fédération de l'ARA, donc en région Occitanie. Oui, vos propos sont assez choquants. Je suis désolée de vous le dire, monsieur Attiel. Voilà, moi, je vais juste dire deux choses et puis certainement mes collègues vont compléter. En région Occitanie, c'est une centaine de radios associatives, dont 80 journalistes. Donc voilà, à l'échelle de notre région, ce n'est pas rien. Et au national, c'est assez important aussi au niveau du chiffre. Et par contre, je vous remercie, monsieur Corbière, parce que c'est exactement ce que j'allais dire, qu'en général, les grands journalistes qui aujourd'hui nous retrouvons sur France Inter ou peu importe, hein, sur d'autres radios, sont passés par des radios associatives, effectivement, de territoire, ou sont passés par des radios universitaires comme Campus, hein, qui est un grand réseau en France. Donc oui, c'est un tremplin, la radio associative. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
J'entends ce que vous dites, madame, mais je ne dis pas le contraire, et vous avez tout à fait raison. Je dis simplement que, précisément, pour que les radios associatives puissent mettre en avant cette nécessité d'être elles aussi des éditeurs, des vecteurs d'information, il y a peut-être effectivement, et ça rejoint le débat de ce soir, un modèle économique qui est un peu plus difficile pour elles que pour les autres. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de journalistes dans les radios associatives. Je dis que trop souvent, certaines d'entre elles ont beaucoup de mal pour mettre en place une vraie stratégie éditoriale et de proximité et de terrain. On est bien. Je ne vois pas ce qui peut vous choquer dans mes propos, dans la mesure où nous allons à peu près dans le même sens, et en tout cas dans l'idée de. En aucun cas, je ne juge le travail qui est fait par les associatives, mais je pense qu'effectivement, c'est très difficile pour elles, beaucoup plus que pour d'autres structures, que de créer des emplois et d'entretenir de vraies rédactions quand on sait la lourde charge que ça représente.
Oui, on est obligé de réagir à ce que vous avez dit parce que vos propos, le fait est, sont extrêmement désobligeants à l'égard des radios associatives et surtout montrent bien que vous ne connaissez pas ce secteur. Ce qui est dommageable, c'est de voir que l'organisation de uniquement de cet atelier, il n'y ait pas une personne qui se fasse partie du monde des radios associatives. J'avais cru comprendre que, peut-être pas toutes, mais un certain nombre de radios associatives font en effet de l'information. Elles auraient pu participer à ce débat et peut-être répondre à la question tout à l'heure de qu'est-ce qui peut intéresser les jeunes dans la radio et l'info ? Et y a-t-il une autre façon d'aborder l'info ? Puisque je n'ai entendu qu'une seule façon d'aborder l'info ici, jusqu'à présent, à savoir des journalistes, une rédaction, un format, un angle. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, les radios n'ont pas d'obligation de faire de l'info. Ça n'est pas dans la loi, ça n'est pas forcément dans une convention. Ça n'est pas vrai. Le rôle des radios associatives, ça n'est pas de faire de l'info. Ça peut être de donner la parole aux citoyens, de créer le débat et peut-être de faire de l'info. Nous ne le contestons à personne. Il se trouve qu'un certain nombre de radios associatives ont des journalistes et elles comptent parmi leurs bénévoles des gens extrêmement aguerris qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans, peut-être 40, je n'en sais rien d'ailleurs, puisque nous fêtons les 40 ans de la radio associative, entre autres, qui nourrissent cette information. Nous sommes extrêmement nombreux, par exemple, à couvrir les élections départementales et régionales actuellement. Je ne suis pas absolument certain que toutes les radios locales, commerciales, le fassent. Totem le fait, par exemple, n'est-ce pas Guillaume ? Nous le faisons également. Ce ne sont pas des journalistes qui couvrent ces débats. Nous ne donnons pas que 50 secondes à tel ou tel interlocuteur politique. Nous lui donnons l'occasion de s'exprimer et d'avoir un échange. C'est une autre façon. Ça ne veut pas dire que France Bleu ou Totem ne vont pas faire ce type d'émission. Ça veut dire que nous, nous nous concentrons sur ces émissions en demandant à nos bénévoles de se former et d'avoir leurs questions. Et pas celles peut-être un peu plus formatées et que je ne dénigre pas, mais c'est une réalité, que sont ou qu'est celle des journalistes. Alors oui, nous faisons aussi de l'info. Avons-nous nécessité à faire de l'information en 2 minutes, 1 minute, 50 secondes ? Je dirais que ça, c'est un autre débat. Ça dépend de ce que veulent faire les radios, qu'elles soient associatives ou pas. Ça dépend de la notion de formatage ou de programme radiophonique qu'elles ont. En ce qui nous concerne, par exemple, nous nous sommes mis à faire des flashs et des journaux régionaux. Je ne suis pas persuadé que ce soit absolument pertinent, mais en tout cas, ça répondait à une demande. Et nous sommes structurés pour répondre à cette demande locale. Par contre, ce qui est extrêmement pertinent chez nous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le débat, les formats longs, des émissions thématisées avec des sachants, et ces sachants, ce sont les citoyens qui ont eux aussi des choses à dire, et ces choses ne sont peut-être pas celles que pourrait avoir tel ou tel journaliste, mais en tout cas, elles sont pertinentes et pertinentes pour la population. J'en terminerai par juste un petit point. Vous avez fait une erreur, monsieur, en comparant plusieurs budgets, ce qui montre bien que vous ne connaissez pas le monde de la radio associative. Vous avez parlé tout à l'heure de tables de mixage, de baies, etc. Vous devez savoir que les radioactifs, d'ailleurs comme l'administration, ont des budgets dissociés. Et l'équipement ne fait pas partie de l'arbitrage du fonctionnement, puisqu'il est soumis à des subventions, notamment au niveau Midi-Pyrénées, c'est-à-dire en Occitanie, que ce soit du fonds de soutien, c'est-à-dire l'État, ça peut être aussi l'Europe au niveau des fonds leaders, mais aussi et surtout des fonds structurels dégagés par la région Occitanie. Ces budgets sont dissociés des budgets de fonctionnement. Et le problème n'est pas que vous ne connaissiez pas le secteur, c'est que vous ameniez à le présenter de façon aussi misérabiliste. Les radios associatives ne sont pas de petites radios faisant de petites choses avec de petites gens. Nous sommes plusieurs à émettre, peut-être avec un seul émetteur, d'autres avec 4, 5, voire 10, voire 18 émetteurs, avec des rédactions, des bénévoles, des centaines de bénévoles, au niveau national, 30 000 bénévoles. Je pense que ces gens ont le droit du respect. Et là, à l'instant, j'espère et je veux le croire que vous ne souhaitiez pas manquer de respect à ces gens, mais c'est ce que vous avez fait.
Juste, très rapidement en fait, je souhaite répondre aux jeunes qui s'interrogeaient sur l'intéressement des plus jeunes à l'actualité et à l'information. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes amis concernant les propos de Sylvain. Pour intéresser les plus jeunes, il faut justement que les jeunes s'approprient cette information. Et là, il y a un véritable rôle des radios de communication sociale de proximité que sont les radios associatives. Il y a pléthore de radios de catégorie A qui font des ateliers radio auprès des collèges, auprès des lycées, qui accueillent de très nombreux jeunes en tant que bénévoles ou alors lors d'ateliers pour connaître, pour comprendre le métier de journaliste. Ils sont encadrés. Je ne dirais pas qu'ils sont formés, mais en tout cas, ils connaissent mieux, ils appréhendent mieux l'outil de l'information au niveau des radios et comment elle doit être traitée au niveau de ce média. Pour en revenir donc à ces ateliers et aussi par rapport au travail rédactionnel, parce qu'il existe des radios associatives, il existe dans les radios associatives ce travail rédactionnel. Nous avons des journalistes professionnels au sein de nos radios. Nous avons aussi, comme la presse écrite d'ailleurs, des correspondants locaux, soit bénévoles, soit salariés, soit pigistes. Donc nous travaillons véritablement aussi comme d'autres rédactions et comme un véritable journal. Nous avons en plus, nous, la latitude de pouvoir traiter nombre de sujets qui ne rentrent pas dans un cadre, je dirais, de médias mainstream, où on peut véritablement s'intéresser à des sujets qui ne trouvent pas écho ailleurs. Et ça, c'est la grande force de la radio associative. Et quand on accueille des jeunes chez nous, au sein de nos structures, c'est aussi pour qu'ils puissent s'accaparer l'information, qu'ils puissent la traiter, et qu'ils puissent participer à l'information avec leurs propres mots et leur propre façon de voir l'actualité. Et ça, c'est toute la force de la radio associative.
La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Supformadia et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.